À la semaine prochaine.
La radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Et aujourd'hui, on va faire un tour du côté des postiers et de leurs syndicalistes réprimés. Un des leurs, Willy Delem, passait en commission de discipline ce mardi, alors que la campagne pour les élections professionnelles commence tout juste à la poste. Avant ça, on commence par dire un mot de la journée 12 heures pour la Palestine, une journée qui va avoir lieu ce samedi au Rocher de Palmer à Senon, à l'initiative du collectif Éducation avec Gaza. Pour en parler, on est au téléphone avec Émilie Montalétan. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Tu es professeure de lettres au lycée Élie-Faure de Lormont et membre de ce collectif Éducation avec Gaza. Peut-être tu peux nous rappeler d'abord ce que c'est ce collectif, Émilie ?
Oui, tout à fait. Donc, ce collectif, il s'est constitué au mois de janvier à l'appel du syndicat général des enseignants palestiniens qui appelait donc à la solidarité. Et donc, nous avons répondu à cet appel. Et donc, un de ses objectifs principaux, c'est de dénoncer la destruction méthodique et délibérée du système éducatif palestinien à Gaza plus particulièrement, mais aussi en Cisjordanie. Donc c'est ce qu'on appelle un éducide ou un scolasticide. Et donc cette destruction, elle touche aussi bien les élèves et les enseignants qui font partie des victimes des bombardements en cours. Il y a plus, selon le ministère de l'Éducation palestinien, il y a plus de 10 000 élèves qui ont été tués et 15 000 blessés, plus de 650 étudiants, mais aussi plus de 500 personnels de l'éducation. Et cette destruction, elle passe aussi par la destruction des infrastructures. Il n'y a plus d'université debout à Gaza. Et l'ONG Éducation Cluster estime que plus de 92% des écoles sont partiellement ou totalement détruites. Voilà, donc c'est une éducation à l'arrêt. 620 000 élèves et 88 000 étudiants ont été privés de leur scolarité pendant une année entière. Et là, la rentrée scolaire en Palestine, elle avait lieu le lundi 9 septembre. Donc c'est une deuxième année consécutive qui prive ces élèves de leur droit à l'éducation. 39 000 lycéens et lycéennes n'ont pas pu passer leur bac l'année dernière, et donc ça se poursuit en cette nouvelle rentrée.
Et tu le disais, ça concerne Gaza, mais ça concerne aussi maintenant la Cisjordanie ?
Alors ça concerne la Cisjordanie depuis le début du conflit, mais là effectivement ça s'est accéléré ces dernières semaines en Cisjordanie aussi, avec l'opération ironiquement nommée camp d'été, parce que nous, dans ce qu'on entend dans un camp d'été, c'est l'accueil des enfants pour leur proposer des activités. Et cette opération camp d'été, notamment sur le nord de la Cisjordanie, elle a attaqué les villes et les camps de réfugiés de Toubaz, de Toulkarem, de Jenin, mais aussi d'Al-Khalil. Donc effectivement, ça se dégrade de plus en plus aussi en Cisjordanie. L'université de Bir Zeit, mardi 3 septembre à 2h du matin, a subi une invasion du campus avec une agression d'un des gardes de l'université et une dégradation des locaux du conseil étudiant. Donc on voit bien que l'éducation est une des cibles privilégiées de l'État israélien.
Alors avec le collectif Éducation avec Gaza, vous aviez déjà organisé, je crois, un événement au printemps dernier. C'est quoi l'objectif là de cette nouvelle journée 12 heures pour la Palestine ce samedi au Rocher de Palmer, Émilie ?
Donc effectivement, on avait organisé plusieurs événements dans le but d'informer et de dénoncer cet éducide dans lesquels on donnait la parole à nos collègues de Palestine. On avait notamment reçu des collègues de l'Institut français de Gaza. Là, notre objectif, c'est de dénoncer la destruction de la culture sous toutes ses formes. Parce qu'effectivement, à la fois les lieux de savoir, hein, c'est-à-dire les bibliothèques, les librairies, les musées, les archives, sont détruits à Gaza, mais aussi les monuments du patrimoine. L'ICOMOS, qui est le Conseil international de protection des monuments et des sites, dès le 2 février, décomptait 200 sites patrimoniaux détruits sur 350, c'est-à-dire 60% du patrimoine historique, qui est un patrimoine mondial. Mais il y a aussi la culture actuelle qui est attaquée. Les maisons d'édition sont détruites, les galeries d'art, hein, comme la galerie Eltika. Donc nous, on veut mettre à l'honneur cette culture palestinienne pour dénoncer la destruction en cours et aussi pour, je dirais, réhumaniser les Palestiniens parce que les priver de leur culture, c'est aussi nier leur humanité. Et on voit que cette campagne génocidaire israélienne, elle s'accompagne de propos qui visent à déshumaniser les Palestiniens, hein, puisqu'il y a plusieurs ministres israéliens qui ont utilisé la métaphore des animaux humains, notamment Yoav Gallant, le ministre de la Défense. C'est celui contre qui, entre autres, le procureur de la Cour pénale internationale a requis un mandat d'arrêt le 20 mai, qui avait déclaré dès le 10 octobre « Nous combattons des animaux humains ». Donc, organiser cette journée autour de la culture palestinienne, ben, c'est aussi lutter contre cette déshumanisation.
Alors, rapidement, le programme pour ce samedi, ça commence à 10h30 le matin avec des ateliers, trois ateliers dont, il me semble, deux sont déjà complets. Il en reste un, donc c'est sur inscription, il en reste un sur un atelier de danse, je crois. Émilie ?
Oui, donc tout à fait, ça va se dérouler toute la journée. Nous remercions le Rocher de Palmer de nous accueillir donc dès 10h30 du matin. Donc effectivement, les ateliers étaient gratuits, sur réservation. L'atelier broderie et l'atelier calligraphie sont effectivement complets, mais il reste de la place pour l'atelier de dabké, de danse. Et il y aura aussi dans le Rocher de Palmer des expositions, donc de photos de la Nakba, avant et après la Nakba, mais aussi des expositions de peintres palestiniens et de témoignages d'enseignants et d'étudiants que nous avons recueillis. À midi, on laissera la place aux traditions culinaires palestiniennes, donc il y aura un repas palestinien partagé, donc qui lui sera payant, mais on peut payer sur place en espèces ou par carte bancaire. L'après-midi, il y aura une projection de film pour donc mettre à l'honneur le cinéma palestinien. C'est un film de Firas Khoury qui s'appelle Alam, le drapeau, et qui présentera aussi des Palestiniens dont on parle peu, mais qui sont ce qu'on appelle les Arabes palestiniens, c'est-à-dire les Palestiniens qui résident en Israël. Et ensuite, nous accueillerons deux écrivains, Jadilal, qui est un romancier franco-palestinien, et Anas Haleli, qui est un poète palestinien, donc pour mettre à l'honneur la littérature. Et on parlera aussi avec eux du patrimoine. Et puis, on finira avec un grand spectacle qui peut être réservé sur Elo Asso, où il y aura donc de la musique, du chant, de la poésie et de la danse, avec des artistes palestiniens comme Ahmad Dari ou Nahouras Ibrahim qui seront présents, et une troupe de dabké qui vient de Paris. Voilà.
Eh bien, très bien, merci beaucoup Émilie. Donc, pour retrouver toutes ces infos, on peut aller facilement sur le site d'Hémosphère Gironde. Il y a un lien à la date de samedi vers notamment cette page Hello Asso où on peut réserver tout cela. Merci beaucoup Émilie. On rappelle donc c'est 12h pour la Palestine ce samedi au Rocher de Palmer à partir de 10h30 et toute la journée. Merci beaucoup Émilie.
Je vous remercie. Bonne journée.
Et je rappelle que tu es prof de lettres au lycée Elifor à Lormont et membre du collectif Éducation avec Gaza. Et on termine avec quelques notes de Ziad Ben Youssef et ce titre Janoub. Et Et à 12h presque 20 sur la clé des ondes, on enchaîne avec notre dossier du jour. Mardi dernier, un rassemblement avait lieu devant le siège de la Poste à Mériadec. Rassemblement en soutien à Willy Delem, postier membre du syndicat Sud PTT, poursuivi par sa direction pour avoir trop bien fait son travail de syndicaliste. Il était convoqué devant la commission de discipline ce jour-là. On écoute tout de suite ce qui s'est dit à ce rassemblement.
La réalité, c'est que quand on ouvre sa gueule à la Poste, on est menacé de licenciement.
On n'est pas dupe, Willy, s'il est sanctionné, c'est une sorte de syndicalisme qui est sanctionné, comme l'a dit Julien. Hein. C'est le syndicalisme de terrain, c'est le syndicalisme qui va sur le lieu de travail. C'est le syndicalisme qui organise les collègues et qui les incite à résister, à s'organiser pour lutter.
Ce que veut la Poste, hein, c'est des partenaires sociaux, des syndicats pots de fleurs, des plantes vertes. Ça, elle est très friande de ça. Du dialogue social, on regarde des slides sur le mur.
La répression syndicale, c'est dans toutes les grosses entreprises. Et à travers la Poste, qui est un des plus gros employeurs, c'est tout le patronat qui s'attaque à une forme de syndicalisme. Le syndicalisme de terrain, comme je dirais. Mais ce qu'il faut que sache la Poste, c'est que quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi qu'il arrive après, avec d'autres sanctions qui tomberont sûrement, on continuera à aller sur les lieux de travail, on continuera à écouter les collègues, on continuera à les informer, on continuera à les organiser, à écouter leurs revendications et à faire en sorte qu'ils puissent résister la tête haute. Merci encore.
Je m'appelle Olivier Rosé, je suis collecteur à La Poste depuis 1995 et je suis également représentant syndical de Sud PTT dans le Var après pas mal d'années à Paris.
Alors peut-être d'abord, comment c'est toi, quelles actions tu mènes en tant que représentant syndical et quelle répression toi tu as pu rencontrer de ton côté dans le Var ?
Alors plutôt je vais parler de Paris puisque sur Paris il y a eu une vague de répression très forte début des années 2010. Qui concernait principalement les militants syndicaux Sud ou CGT, et c'était souvent Sud, qui prenaient la parole dans les centres auprès de leurs collègues, et qui leur expliquaient les mauvais coups de la direction et qui encourageaient les collègues à résister. Moi, à titre personnel, donc, je suis sur un feuilleton juridique, administratif, qui dure depuis 2009, et j'en suis à ma 9e année de mise à pied prononcée à mon encontre. C'est-à-dire que là, je suis actuellement mise à pied depuis l'année dernière jusqu'à septembre de l'année prochaine. Voilà.
Pour
des prises de parole, pour ce que la boîte appelle des intrusions dans les centres. C'est-à-dire qu'on a un droit syndical qui nous permet de visiter les centres, d'aller voir les collègues. Mais la Poste nous met 15 000 embûches de délais, de registres de visiteurs à émarger, des choses comme ça. Qui, pour elle en fait des griefs, qui nous expose à sanctions. Alors, on a énormément de camarades, comme Willy, que je vais défendre tout à l'heure, voilà, Willy Delem, de Sud PTT. On lui reproche exactement les mêmes choses que moi, des prises de parole, des intrusions dans les sites postaux. Et là, nationalement, on est sur une demi-douzaine environ de camarades Sud ou CGT inquiétés de procédures disciplinaires pour exactement ces griefs de prise de parole. On a eu Sam dans Pyrénées-Orientales, dans le 66, et là, il y a des menaces sur deux camarades, un du 66, Ludovic, et un autre sur David, dans le Loiret, voilà. Toujours pour des prises de parole. En réalité, la Poste, ce qu'elle aime bien, c'est des syndicats qui regardent, qui vont dans les réunions, qui disent, qui posent pas trop de questions, qui signent des accords, et qui surtout ne vont pas voir les collègues pour les encourager à refuser l'inacceptable, les suppressions d'emplois, le rallongement des tournées, la précarisation de l'emploi, puisqu'on est à 30-40% de précaires, intérimaires, contrats gel, tout précariat confondu, voilà. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est des syndicats, des pots de fleurs, des plantes vertes en réunion. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est mes camarades syndicalistes sont souvent des plantes vertes dans les réunions, hélas.
Que dit le droit du travail sur ces questions-là, le droit syndical ? Est-ce que c'est autorisé factuellement d'aller sur les sites et d'aller s'adresser aux collègues ? Ou est-ce qu'il y a un trou ? Est-ce que la Poste est dans son bon droit de contester ses pratiques syndicales ?
Il y a un vide absolu sur la prise de parole. On a par contre la plupart des inspections du travail qui se prononcent sur le sujet, refusent les licenciements en disant que le syndicaliste a le droit de prendre la parole. Ensuite, c'est une bataille devant les tribunaux. Alors on a deux tendances, une tendance du juge judiciaire, une tendance du juge administratif qui est beaucoup plus restrictif puisque la magistrature administrative n'est pas la plus progressiste, si je devais me prononcer ainsi, voilà. Et on a récemment, c'est-à-dire sur une demande de licenciement de La Poste d'un représentant sud dans les Yvelines, sur des prises de parole, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, en février 2023, a considéré que les prises de parole étaient une forme acceptable d'action. Voilà. Donc nous, on utilise beaucoup cette décision de refus de licenciement d'Olivier Dussopt, qui n'était pas un ami des travailleurs, nous le précisons également.
Et donc toi, ta situation, tu dis ça fait 9 ans, 9e année
de sanctions prononcées à mon encontre.
De sanctions, de mise à pied. Toi, tu as contesté ces décisions. Comment ça se fait que tu en es toujours là et qu'il y a, voilà, ça veut dire 9 ans où tu es toujours salarié ou fonctionnaire de La Poste, mais tu n'as pas de salaire. Tu es dans cet entre-deux-là complètement absurde.
J'ai gagné souvent devant les tribunaux administratifs. Mais il y a toujours, c'est une bataille juridique. Le juge administratif considère la plupart du temps que la prise de parole n'est pas grave, mais que le fonctionnaire a fauté. Voilà. Et donc là, feuilleton administratif, TA, Cour administrative d'appel, Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit, de toute façon, il y a faute. Voilà. On ne va pas regarder le niveau de la faute. La Poste a eu raison de sanctionner. Donc voilà, avoiné ce syndicaliste. Et donc La Poste m'a réavoiné sur des décisions qui avaient été précédemment annulées. Donc j'ai repris et j'ai récopé derrière. Voilà. C'est un feuilleton.
Et donc tu disais, vous êtes un certain nombre comme ça à avoir ce type de sanctions-là dessus de PTT au niveau national à La Poste.
Ben là, par ici, il y a Julien Collat qui avait eu une sanction. Je ne sais plus exactement le niveau de la mise à pied, mais enfin, il a eu de la mise à pied pour une prise de parole. Voilà. Donc, les prud'hommes ont considéré que une prise de parole, c'était pas gênant pendant le service. La Poste a allégué de perturbation du service qui n'était due qu'au fait du départ en grève de collègues. Donc, forcément, la production s'était arrêtée puisque des collègues avaient fait grève à l'issue de la prise de parole de Julien. Sa sanction avait été annulée. Je sais que Willy également, il avait eu une sanction toujours pour les mêmes griefs, il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui avait également été annulée au prud'homme. Et la magistrature judiciaire, généralement, on réussit à gagner. En fait, les sanctions sont annulées. Et généralement, le juge judiciaire, qu'il soit prud'homal ou de cour d'appel, juge que la prise de parole, il n'y a pas mort d'homme et qu'en fait, le syndicaliste peut parler pendant le service. On est sur un vide juridique où justement, nous, ce qu'on considère, c'est qu'en fait, pour encourager les collègues à lutter, il faut les rassembler. C'est ce que La Poste refuse. Elle fait tout pour séparer, elle fait tout pour individualiser. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est la prise de parole. Ça n'est pas qu'une prise de parole, c'est tenter de rassembler les collègues. Qu'un collègue ne soit plus individualisé tout seul sur sa position de travail, à râler sur ses conditions de travail, j'en ai marre tout ça, mais que c'est quand on se rassemble tous qu'on réalise qu'en fait on est tous dans la même galère et que tous ces mécontentements individuels se transforment en colère collective et en énergie et potentiellement en grève. C'est bien pour ça que La Poste sanctionne ces fameuses prises de parole.
Merci beaucoup Olivier Rosé, donc okay. Sud PTT dans le Var et à la Fédération aussi Sud PTT au niveau national. Merci.
Exactement.
À toi.
Donc, quelques petits rappels avant de monter par rapport à ce qu'on vous a dit la dernière fois, à la procédure qui a été entamée. J'ai repris un petit peu mes papiers parce qu'en fait, la procédure, elle est un petit peu comme la direction en fonction du vent, elle est un petit peu changeante. Donc en fait, depuis l'entretien préalable à licenciement, la boîte a rajouté des griefs, ce qui est complètement interdit. Mais on sait que la loi n'est pas pour La Poste et qu'elle a bien... on n'en a rien à foutre en fait de savoir si elle a le droit ou pas de le faire. Elle le fait. Donc on va l'expliquer en montant. On a un compte rendu d'entretien préalable à licenciement qui ne correspond pas à ce qui a été dit. Et encore une fois, ça ne les dérange pas. Juste pour y revenir quand même sur les griefs qu'ils reprochent. Juste pour les reprendre très rapidement, il y a la question du non-respect du droit à la déconnexion. On avait bien rigolé ensemble la dernière fois quand on avait entendu ça. On vous avait fait un petit débrief après. On nous reproche d'envoyer trop de mails à la direction, de les envoyer le soir, de les envoyer quand ils sont en congé. Et eux, les pauvres, comme ils ouvrent leur boîte mail tout le temps, on les harcèle en quelque sorte. Et en fait, on n'arrête pas de leur poser des questions et de leur dire qu'au boulot, ça va mal. Et ça, ils ne le supportent pas, ils le vivent très très mal. Et donc, on ne respecte pas leur droit à la déconnexion. Le non-respect des consignes de sécurité, c'est pour La Poste, en fait, l'obligation pour les représentants syndicaux quand ils vont sur des sites, de prévenir la direction qu'ils vont voir les collègues. N'importe quoi. Complètement dans un délire total. C'est de faire comme un électricien ou un plombier qui viendrait réparer un truc dans un local, ben prévenir que tu viens, signer registre de sécurité, etc., etc. On est des postiers, des postières, ça vous emmerde, c'est quand même le cas. Le refus d'appliquer les consignes des directeurs d'établissement. Alors c'est quoi la consigne ? Ben c'est d'arrêter de faire des prises de parole. C'est pas de faire son taf ou quoi, machin, c'est arrêter de vous adresser aux collègues. Pas plus loin qu'ici, dans les sous-sols là, de la direction, où on travaille à Mériadec, il y a un certain nombre de collègues de Mériadec qui sont là, on travaille à la cave avec les fuites, toute la merde qui coule d'en haut, on se la prend dans la gueule. Et quand on vient et qu'on ouvre notre gueule pour dire ça ne va pas, on a des mauvaises conditions de travail, on est mal payé, on est maltraité, on est mal considéré, là le directeur vient, parce qu'il vient rarement, mais il vient quand on est là, il dit « Monsieur Nélève, arrêtez de prendre la parole !»« Non, je vais quand même continuer !» Hop, sanction disciplinaire, menace de licenciement. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que quand on ouvre sa gueule à la poste, on est menacé de licenciement. Ensuite, ils font des procédures de mise à pied, comme ça a été le cas pour Vincent, comme c'est le cas pour Olivier, comme c'est le cas de plein d'autres camarades, y compris de la CGT, de Franck qui est là, de Christophe qui est là aussi, qui a été licencié de manière complètement injuste. Tout ça, c'est l'engagement syndical qui en est la cause. Pour autant, on ne se laisse pas faire. Pour autant, on relève la tête. Pour autant, il est hors de question de s'asseoir sur nos droits et de s'asseoir sur ce qu'on est nous, à savoir des militants syndicaux. Et on l'a chevillé au corps et on le restera, que vous le vouliez ou non. Le dernier grief qui nous reproche, c'est justement ça en fait, c'est d'être des syndicalistes. Qu'est-ce qu'on nous reproche ? Qu'est-ce qu'on nous reproche ? Attitude et écrit inapproprié et irrespectueux. La dernière fois, on leur a expliqué, mais c'est pas irrespectueux en fait de dire à un directeur d'établissement de faire preuve d'ouverture d'esprit. Je le dis, c'est ce qu'ils nous reprochent là dans la procédure. Ils me reprochent pour le syndicat d'avoir demandé à une directrice de faire preuve d'ouverture d'esprit. Il me reproche dans un mail envoyé à la direction, je vais vous le citer parce que c'est quand même assez drôle, pour citer Euripide, la supériorité est toujours odieuse. Alors nous ne saurions que trop vous suggérer de traiter les collègues avec considération. Ça, pour eux, c'est un motif de sanction de citer Euripide. Je pense qu'un peu de culture leur ferait pas de mal. Et c'est avec ça aussi où ils ont du mal. Quand on leur répond, quand on a de la répartie, quand on leur explique nos conditions de travail, qu'on ose leur expliquer des trucs. Alors là, c'est plus possible. Hein. Restez à votre place, bande de gueux. C'est comme ça, en fait, dans leur tête. Le dernier truc aussi que j'ai à vous dire par rapport à la procédure disciplinaire. Ils ont mis dans le dossier, de manière à l'aise, décontractée, des rapports d'activité qui décrivent l'heure à laquelle on arrive sur les sites, qui on voit, ce qu'on dit, combien de temps, combien il y a de grévistes, comment ils ont cassé la grève. On a mis en ligne ces documents. On sait qu'en fait, c'est en permanence. Sauf qu'en fait, ils sont tellement dans un climat de décontraction, et il faut dire que l'ambiance générale, y compris en dehors de la poste, les incite bien à être très détendus. Ils sont tellement décontractés que les rapports qu'ils font sur nous, qui sont complètement illégaux, hein, atteinte aux libertés syndicales, atteinte aux lois sur la protection des données, ils constituent des dossiers sur des syndicalistes, on est quand même dans du bon patron du 19e siècle, ils sont tellement détendus qu'on le met dans le dossier, à l'aise. Et donc on a un directeur qui dit, voilà, alors monsieur Perret, donc mon camarade de la CGT, représentant départemental lui aussi, monsieur Delem, sont arrivés à 7h25. À 7h30, ils ont pris la parole en bout de travée. Ils ont dit si, ils ont dit ça, ils ont parlé des intérimaires, ils ont parlé des conditions de travail, ils ont parlé des motifs d'embauche, ils ont parlé de la CDIsation qu'on demande des intérimaires. En fait, ils listent toutes nos revendications. Et à chaque fois qu'on va parler avec des collègues, comme ça, ils vont lister avec qui on parle, combien de temps on parle, etc. Et à la fin, ils précisent, sur Pessac, à 7h, nous avons 10 grévistes, les collègues de Pessac sont là, plan de secours activé sur les tournées affectées, balles, donc boîte aux lettres, prestations 100% réalisées, on fait au mieux pour la presse et les objets, nous avons maintenu le renfort pour les tournées présentes. Ils t'expliquent tranquille qu'ils cassent la grève. Mais ils l'écrivent et ils te donnent le document. Tiens, tiens, c'est cadeau. C'est parce qu'ils sont trop décontractés. Trop, beaucoup trop. Donc pour conclure, nous, ce qu'on appelle à faire, c'est faire en sorte qu'ils ne soient pas du tout décontractés. À la poste, dans les autres boîtes, l'ensemble du patronat, l'ensemble du monde du travail doit se confronter parce qu'on ne continuera pas dans les CSE à faire ce qu'ils veulent qu'on fasse, à savoir dialogue social, etc. Olivier en a parlé. On est là pour les confronter, on continuera de les confronter. On invite tous les camarades à le faire et on sera présent aussi dans les autres rassemblements pour les autres boîtes et les collègues postiers et postières qui sont là. On ne lâche pas l'affaire, on ne se laissera pas écraser, on ne se laisse pas intimider. On a le droit de faire ce qu'on fait et encore une fois, on le répète, notre combat est juste, donc on continuera jusqu'au bout.
Salut Willy, un autre enjeu, là c'est le moment où a lieu cette répression, c'est-à-dire juste au début de la campagne des élections professionnelles, donc passage CHSCT, CT, ACSE à la poste. Peut-être, c'est quoi pour vous l'enjeu à SUPTT de ces élections et du coup comment vous les abordez là ?
L'enjeu c'est de ne pas se faire absorber par un syndicalisme de salon où tu vas aller de commission en commission. En gros, il y a un camarade qu'on a parlé tout à l'heure où ils vont essayer de t'absorber en fait, pour faire de toi un syndicaliste de réunion, en fait, de réunionnite. Donc nous, l'enjeu, c'est de rester le plus proche des collègues, rester dans les revendications de base, les augmentations de salaire, les embauches de collègues, de meilleures conditions de travail, de ne pas s'embarquer sur des délires patronaux, en fait, tout simplement. Et voilà, de continuer à porter notre forme de syndicalisme par la lutte, par la grève, par les revendications, par la confrontation.
Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'être élu pour ça ? Qu'est-ce que toi tu dis aux collègues ? Est-ce que c'est important d'aller voter, de voter pour SUPTT ? Ou est-ce qu'en fait c'est un peu dérisoire par rapport à l'enjeu de ces élections et du syndicalisme de manière générale ?
Moi je dis, en tant que militant Sud, je dis voter pour un syndicat de lutte. C'est-à-dire, j'appelle forcément à voter pour Sud, j'appelle à voter pour Sud parce que je suis candidat, mais votez pour un syndicat de lutte quoi qu'il arrive. Si vous n'êtes pas d'accord avec Sud, il y a un autre syndicat de lutte qui s'appelle la CGT. Et donc voilà, l'important c'est qu'on soit le plus en lutte dans les services, et c'est pas en votant pour des syndicats qui vont être justement dans la réunionnite qu'on va y arriver. Donc nous on est sur une campagne intersyndicale en fait avec la CGT Sud. Même si on a des listes séparées, on se bat pour la même chose à la fin, qui est d'avoir un maximum de capacité aussi de mettre la pression à la boîte. Les élections CSE, c'est pas juste avoir des gens qui vont faire des réunions, c'est la représentativité syndicale. C'est la possibilité d'avoir pour les syndicats de signer des accords ou de ne pas les signer. Donc de dire à la direction de la Poste, on est en mesure de vous bloquer des choses, on est en mesure de faire un rapport de force avec vous. Et pas juste d'être là pour occuper des sièges et vous faire plaisir.
Ces moments-là de répression, les rassemblements que vous organisez pour faire face à la répression, comment ils sont perçus par les camarades, les collègues ? Par les collègues plutôt que les camarades ?
Disons que malheureusement pour nous c'est assez régulier ce type de rassemblement, mais on pense que c'est important et les collègues quand même répondent présents, les collègues, les camarades, il y a plein de collègues de plein de sites qui sont là, et s'ils répondent présents c'est aussi parce qu'ils savent qu'en attaquant des représentants syndicaux, l'idée c'est qu'ils attaquent notre forme de syndicalisme et eux ils adhèrent à notre forme de syndicalisme. Les collègues ils adhèrent au fait qu'effectivement on n'est pas des collaborateurs avec le patron, il y a le patron et il y a nous en fait, il y a deux camps et on s'oppose et ils le savent, ils en sont conscients, et s'ils sont là aujourd'hui c'est justement parce qu'ils sont conscients de ça.
En un mot, en quelques mots, c'est quoi les principales préoccupations pour les collègues aujourd'hui et là où les conditions de travail sont menacées, les conditions salariales aussi peut-être ?
Les principales revendications, c'est augmentation des salaires. T'es postier avec plus de 15 ans d'ancienneté, tu touches moins de 1500 euros par mois. C'est l'embauche de tous les collègues précaires. C'est un collègue en CDI en face de chaque position de travail. Et c'est l'arrêt du saccage du service public, c'est-à-dire l'arrêt des fermetures de bureaux de poste, l'arrêt des suppressions de tournées, l'arrêt de la dégradation de la livraison du courrier, du colis, de la sous-traitance, etc. C'est ça nos revendications, c'est de maintenir un service public de qualité et que nous, on en soit les acteurs et qu'on soit respectés dans ce qu'on fait, quoi.
Voilà, c'était pour terminer Willy Delhem juste avant son entrée au conseil de discipline ce mardi devant le siège de la Poste. On vous dira bien sûr quand on en saura plus sur l'avis de la commission de discipline et sur la décision de la direction.
Mara querida, mara da mara.